Conversation scientifique par Étienne Klein. Théâtre de l'Odéon. Je salue donc à la fois nos auditeurs et les personnes qui sont présentes dans cette grande salle. Aujourd'hui, c'est donc la conversation scientifique avec comme thème « Comment les physiciens ont-ils su qu'il est possible de faire des bombes atomiques ?» Avec nos invités, nous allons parler de la théorie de la relativité d'Einstein, nous allons parler de E égale mc2, de la découverte de la fission de l'uranium-235 et de la possibilité de réaliser des réactions en chaîne. Et bien sûr, nous parlerons aussi d'Hiroshima et de Nagasaki. Mais auparavant, je voudrais faire remarquer qu'il est assez rare de parler de la théorie de la relativité restreinte sur une scène de théâtre. Or, je pense que nous devrions le faire davantage, et je me réjouis de pouvoir le faire aujourd'hui. Nous devrions le faire davantage pour deux raisons. La première est que la théorie de la relativité restreinte est une loi cosmique, intersidérale, au sens où elle constitue la théorie cadre de l'espace-temps, grâce à laquelle les physiciens décrivent les interactions fondamentales. La seconde raison est qu'elle est aussi une vérité théâtrale, au sens où elle décrit l'espace-temps comme une scène de théâtre, une sorte de trame dans laquelle se déroulent tous les événements qui ont lieu dans l'univers. À la vérité, il y a une troisième raison, hasardeuse mais impressionnante, car elle fusionne les deux premières, qui tient au fait que la théorie de la relativité restreinte a pour exact anagramme « vérité théâtrale » et loi intersidérale. M'étant ainsi débarrassé du souci d'avoir à sortir une anagramme pour les auditeurs de France Culture, nous pouvons entrer dans le vif de notre sujet. Le 6 août 1945 eut lieu le largage de la bombe Little Boy sur Hiroshima, son explosion à 600 mètres d'altitude, accompagnée d'un éclair foudroyant, suivie d'une boule de feu et d'une onde de choc surpuissante qui fit vibrer les corps jusqu'à la rupture, brisant les organes, brûlant les chairs et tuant sur le coup 75 000 personnes n'ayant rien vu venir, et des milliers d'autres par la suite. Et puis, trois jours plus tard, Fat Man, largué sur Nagasaki et la cathédrale Urakami, provoquant un désastre similaire dans l'ordre de l'impensable. Dans notre imaginaire collectif, la formule E égale mc2 est intriquée à l'arme nucléaire. Par ricochet, elle symbolise une sorte de noirceur que l'histoire aurait tatouée sur l'âme d'Einstein. À la construction de cet amalgame, presque tout le monde s'est mis, et plutôt rapidement. Cela commençant un an après le premier essai d'une bombe atomique, qui avait eu lieu le 16 juillet 1945 au Nouveau-Mexique. Pour le commémorer, le magazine Time, daté du 1er juillet 1946, affichait sur sa couverture une représentation saisissante d'Einstein, le cosmoclaste. Littéralement, Einstein, le destructeur de l'ordre. L'œil est d'abord happé par le visage bienveillant du savant, crinière en bataille, très marquée, regard portant au loin comme s'il s'interrogeait sur sa postérité. Cependant qu'en arrière-plan, une grande colonne de flammes et de fumée s'élève vers un nuage en forme de champignon évoquant la tête d'un cobra. Inscrite sur le nuage, pareil à quelques mauvais génies, l'équation E égale mc2 symbolise le pacte faustien que la physique, au départ la plus théorique, aurait conclu avec le mal le plus concret. Quelques années plus tard, en 1961, Léo Ferré chanterait « Y en a marre », dont une phrase lapidaire réduit là encore Einstein à sa formule, et sa formule à la bombe atomique. Nous allons l'entendre.
Monsieur Einstein, loin des canons, croyant travailler pour lui seul, a découvert des équations qui vont nous tomber sur la gueule. Y en a marre, y en a
marre. Mais E égale mc2 a-t-elle plus de lien avec la bombe atomique qu'avec le craquement d'une allumette ou la chute d'un crayon à papier ? On peut en douter. Cette formule date de 1905, L'uranium est un élément chimique connu depuis la Révolution française, ce qui implique que s'il y avait eu un lien direct entre l'uranium, E égale MC2 et la bombe atomique, on aurait parlé de bombe atomique dès la Première Guerre mondiale. Or, pratiquement personne n'en parle avant les premiers mois de l'année 1939. Il y a donc une histoire à raconter, des choses à comprendre. Et pour les comprendre, j'ai invité deux physiciens que j'ai choisis pour leur crinière blanche très einsteinienne. À ma gauche, plutôt à ma droite, je vais commencer par le plus âgé, Bernard Fernandez, physicien nucléaire, qui avait beaucoup travaillé sur l'histoire de cette science. Vous avez publié un gros ouvrage qui s'intitule « De l'atome au noyau, une approche historique de la physique atomique et de la physique nucléaire ». Et mon second invité est Jacques Trenner. Bonjour à tous les deux. Vous êtes vous aussi physicien et vous avez écrit avec votre fils Olivier Trenner une pièce intitulée « Fission » qui, je crois, n'a pas encore été jouée à l'Odéon.
Pas encore.
Alors, je voulais d'abord vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit en préambule ?
Sur le fait que EMC2, oui, tout à fait, bien sûr, EMC2, ça s'applique à n'importe quelle situation où vous avez une transformation de la matière. C'est-à-dire, ça s'applique à la chimie, ça s'applique à un corps qui tombe, ça s'applique à tout. C'est juste un bilan énergétique et de masse. Ça exprime le fait que la masse ne se conserve pas, contrairement à ce que Lavoisier disait. La masse se conserve, tout se transforme, mais la masse se conserve. En fait, elle ne se conserve pas. Quand il y a une transformation de la matière, elle s'exprime. On peut toujours faire un bilan énergétique associé à cette transformation. Et dans ce bilan énergétique, la masse ne se conserve pas. Et il y a cette égalité entre l'augmentation ou la disparition de masse et l'apparition d'énergie avec un facteur de conversion qui est le carré de la vitesse de la lumière, qui est énorme. Et c'est ce qui fait que une toute petite masse en jeu qui apparaît ou qui disparaît correspond à une énergie colossale. C'est 200 millions de fois ce qui se passe dans une réaction chimique quand il s'agit d'une réaction nucléaire.
Bernard Fernandez, vous êtes également d'accord ?
Oui, absolument, absolument. Quand on brûle une allumette, finalement, ce qu'on fait, c'est que l'allumette, en principe, une fois qu'elle a brûlé, est un peu plus légère qu'avant de brûler, parce que elle a envoyé de la chaleur, donc un peu d'énergie. Alors évidemment, si vous la pesez, vous n'allez rien trouver, parce qu'il faut diviser par 1 et puis 17 zéros.
Mais quelle est la quantité de matière qui a été transformée en énergie lors de l'explosion d'Hiroshima ?
Dans l'explosion de la bombe qui a frappé Hiroshima, c'est en fait une variété d'uranium qui s'est cassée en deux. Et alors ce qui se passe, c'est que là aussi, c'est de la chaleur qui est émise, comme dans une allumette. Simplement, les forces qui maintiennent ensemble l'uranium et qui vont le casser sont incomparablement des millions de fois plus fortes. Donc ça veut dire qu'il y a aussi un changement de masse, mais qui cette fois-ci est mesurable, enfin.
C'est
difficile de le mesurer quand même.
C'est à peu près un gramme pour la bombe elle-même.
Oui,
la somme des masses à la sortie après l'explosion, c'est
voilà,
un gramme.
Voilà, il y avait au total, je crois, une cinquantaine de kilogrammes d'uranium, 235. Il y en a peut-être un kilo qui a vraiment participé, qui a vraiment fusionné. Et puis...
Donc on a compris que si Einstein est associé à la bombe atomique, c'est pas tellement à cause de la formule E égale MC2, en tout cas pas directement, mais plutôt à cause d'une lettre qu'il a signée le 2 août 1939, qui avait été en fait rédigée par deux amis d'Einstein, Léo Szilard et Eugène Wigner, deux Hongrois. Einstein l'a signée, cette lettre, et Roosevelt a pu la lire au mois d'octobre, parce qu'avant il n'avait pas eu le temps à cause de l'invasion de la Pologne et du début de la Deuxième Guerre mondiale. Et cette lettre va nous être lue par Léon Bonafé.
Monsieur, de récents travaux d'Enrico Fermi et Léo Szilard, dont les manuscrits m'ont été communiqués, me conduisent à penser que l'élément uranium pourrait devenir une nouvelle et importante source d'énergie dans un proche avenir. Certains aspects de cette nouvelle situation semblent demander de la vigilance et, si nécessaire, une action rapide de la part de l'administration. Je crois donc de mon devoir d'attirer votre attention sur les faits et recommandations suivants. Au cours des 4 derniers mois, il est devenu probable, grâce au travail de Joliot en France, aussi bien qu'à celui de Fermi et Szilard en Amérique, qu'il soit possible de provoquer une réaction en chaîne dans une grande masse d'uranium, libérant ainsi une énergie considérable et produisant en grande quantité des éléments semblables au radium. Il apparaît maintenant presque certain que cela pourrait être réalisé dans un proche avenir. Ce phénomène nouveau pourrait aussi conduire à la construction de bombes, et il est concevable, quoique beaucoup moins certain, qu'on puisse fabriquer des bombes très puissantes d'un type nouveau. Une seule de ces bombes, transportée par un navire et explosant dans un port, pourrait détruire le port dans son ensemble, ainsi qu'une partie du territoire proche. De telles bombes pourraient cependant être trop lourdes pour être transportées par air. Les États-Unis n'ont que de faibles ressources minières d'uranium. Il y en a de bonnes au Canada et dans l'ancienne Tchécoslovaquie, mais la source d'uranium la plus importante est le Congo belge. Dans cette situation, vous pouvez donc tenir pour désirable le maintien d'un contact permanent entre l'administration et le groupe de physiciens qui travaillent en Amérique sur la réaction en chaîne. Une façon d'aboutir à ce résultat pourrait être de donner mission à une personne ayant votre confiance et qui pourrait peut-être jouer ce rôle à titre officieux.
Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, pour dire que cette lettre d'Einstein agit un peu comme ce qu'on appelle aujourd'hui un lanceur d'alerte ? C'est-à-dire qu'Einstein informe le président des États-Unis que les Allemands pourraient disposer d'une arme terrible et que les Américains doivent s'y préparer.
Oui. Alors, je suppose qu'on discutera un peu plus tard sur qui a rédigé cette lettre, parce que c'est pas Einstein qui l'a rédigée en fait, il la signe, mais c'est pas lui qui l'a rédigée.
Einstein ne comprend rien à la physique nucléaire.
Il, voilà, ça, il s'intéresse pas à la physique nucléaire.
Il a fallu que je vous coupe, mais Szilard lui a expliqué la réaction en chaîne en mai 1939. Einstein lui répond, mais je n'y avais jamais pensé. Et en 1935, il avait donné une conférence dans laquelle il disait ceci. Bombarder des noyaux atomiques dans l'espoir de libérer de l'énergie est aussi vain que de tirer au fusil sur des oiseaux dans l'obscurité et dans un coin où il n'y a pas d'oiseaux.
Donc, en fait, il se retrouve dans cette situation de transmettre cette lettre parce que ceux qui sont vraiment préoccupés par ça, c'est, donc, vous l'avez cité, c'est Zilla, Wigner et Teller aussi, qui est dans les parages. Et alors, il faut se mettre dans l'idée de ces trois personnages qui sont dans une chambre d'hôtel du King's Crown Hotel à New York et qui réfléchissent à la façon de prévenir les autorités américaines, les militaires, les autorités américaines, du fait qu'il y a cette possibilité qu'ils connaissent, eux, de réaliser des armes d'un type nouveau. Et donc, ils réfléchissent, et tout ça est raconté, c'est rétrospectivement, c'est drôle, parce que c'est Szilard qui raconte ça dans ses mémoires, « his version of the fact ». Ça n'a pas été traduit en français, mais donc il raconte un peu le genre de conversation qu'ils avaient. C'est très polar des années 50, sombre, avec des lumières crues, et ils se demandent, voilà, on a un secret, comment on va le transmettre ? Et donc, ils ne peuvent pas y aller directement, sonner à la porte du ministère de la Défense, parce que ce sont trois personnes qui parlent anglais avec un fort accent allemand ou hongrois, et donc dire, écoutez, vous savez, il y a quelque chose de nouveau, il y a comme ça la fission nucléaire, on peut faire des armes avec ça, etc. Tout de suite, ils vont se retrouver en tôle. Donc, ils se demandent comment prévenir les autorités, ils pensent à la reine de Belgique, ils pensent à Einstein, parce que Einstein, lui, est absolument connu, il connaît la reine de Belgique, peut-être qu'il pourrait prévenir la reine de Belgique, il préviendra Roosevelt, mais ils se disent, non, c'est pas sérieux, parce que on va se retrouver en tôle, parce que c'est se mêler des affaires diplomatiques du pays, on peut pas faire ça. Et finalement, ils décident de faire en sorte que ce soit Einstein. Donc ils rédigent une lettre, ils vont voir Einstein et ils disent voilà, il faudrait la transmettre à Roosevelt et il peut pas le faire directement non plus. Donc ils ont un ami commun, Einstein et Roosevelt, qui s'appelle Sachs, qui est un transfuge aussi, un économiste qui a travaillé avec Roosevelt sur le New Deal. Et ils disent bah voilà, on va donner la lettre à Sachs, il va la transmettre à Roosevelt. Donc c'est ça le cheminement, c'est comment trouver un moyen pour atteindre les plus hautes sphères du gouvernement américain.
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors, Bernard Fernandez, on voit bien que c'est la fission qui a déclenché dans l'esprit des physiciens la découverte hasardeuse de la fission en décembre 1938, qu'ils ont compris qu'on pouvait faire des bombes atomiques grâce aux réactions en chaîne que cette fission permet d'engendrer. Mais comment se déroule l'histoire qui va de disons 1905 jusqu'à 1938, comment est-ce qu'on a compris qu'il y a dans le noyau des atomes une force nouvelle, et même deux forces nouvelles, qui s'appellent les forces nucléaires. Quelles sont les grandes étapes de cette histoire ?
Alors bon, pour faire court, parce que c'est une histoire très longue.
Oui, votre livre fait 800 pages.
La découverte de la fission a son origine dans la découverte de la radioactivité artificielle. Alors la radioactivité artificielle a été découverte en 1934 par Frédéric Joliot et Irène Curie. Irène Curie, c'était la fille aînée de Pierre et Marie Curie. Et ils ont découvert un phénomène qu'on a appelé la radioactivité artificielle. Alors pourquoi artificielle ? On connaissait la radioactivité depuis 1896. C'est Henri Becquerel qui a découvert que si on met un bout d'uranium sur une plaque photographique, eh bien la plaque est impressionnée. Si on la développe, on a une tache noire. Et puis il a découvert aussi des petits phénomènes électriques qui permettaient de détecter ce rayonnement avec des appareils électriques. Ensuite, dans la foulée, en 1898, deux jeunes physiciens, un Français et une Polonaise, Pierre Curie et Maria Skłodowska, qui venaient de se marier, alors on l'appelait Marie Curie à ce moment-là, découvrent que dans le minerai d'uranium, il y a d'autres corps radioactifs, en quantité très très petite, mais qui sont très très radioactifs, ce qui compense cela. Et ils découvrent ça en utilisant une méthode qu'ils inventent et qu'on appelle maintenant la radiochimie. C'est-à-dire qu'il y en a tellement peu, alors il s'agit du polonium et du radium, il y en a tellement peu que les méthodes chimiques normales ne marchent pas, il y en a trop peu. Par contre, en s'aidant du fait qu'ils sont radioactifs et en les suivant à la trace grâce à la radioactivité, on arrive comme ça à les concentrer et même à les extraire. Donc ça, c'est la radiochimie qui a permis, ensuite d'autres s'en sont emparés, et puis on a trouvé des tas d'autres, parce qu'en fait, en 1902, un physicien de 32 ans, qui s'appelait Ernest Rutherford, qui était un Anglais, enfin un Néo-Zélandais, un grand amateur de rugby, a expliqué qu'est-ce que c'était que la radioactivité. Alors le rayonnement de la radioactivité, en fait, c'est que l'uranium subit une désintégration, il se casse, il émet des morceaux, et il se transforme donc en un autre élément. Alors cet autre élément, c'est une variété de thorium, bon. Et puis cet autre élément va se transformer à son tour en une autre chose, et autre chose, et autre chose, et on arrive comme ça au radium, à la quatrième ou cinquième ou sixième étape. Donc voilà, la radioactivité, c'est une transformation. Et au cours de sa transformation, donc, il y a des particules qu'il appelle alpha et bêta. Alpha, on se rend compte que ce sont des atomes d'hélium, auxquels on a arraché les deux électrons, et bêta, ce sont des électrons, découverts depuis pas très longtemps d'ailleurs. Alors, le même Rutherford va faire ensuite une réaction nucléaire, c'est-à-dire qu'il va envoyer ses alphas, ses atomes d'hélium, sur de l'azote, et il va se rendre compte qu'il se produit un réarrangement, et puis il y a un proton qui est émis. Un proton, c'est un noyau de l'atome le plus simple, qui est l'hydrogène. Et le noyau, c'est Rutherford qui a montré que chaque atome était constitué par un tout petit noyau. Alors, quand je dis tout petit, c'est vraiment encore plus petit que ça, parce que l'atome lui-même, c'est de l'ordre d'un 10 millionième de millimètre, et le noyau, c'est entre 10 et 100 000 fois plus petit que l'atome lui-même. C'est une tête d'épingle au milieu d'un terrain de football, si vous voulez. Voilà. Alors, donc voilà, on sait qu'il y a un noyau, et puis à partir de ce moment-là, Rutherford et d'autres vont essayer de comprendre quelle est la structure de ce noyau, comment il est fait. Pendant un certain temps, on pensait qu'il était fait par un assemblage de protons, c'est-à-dire de noyaux d'hydrogène. Et puis en 1932, bon là je vais un peu vite, on découvre qu'il existe une autre particule qui est très semblable au proton, à peu près même masse, mais qui est neutre et qu'on a appelé le neutron. Et donc on comprend assez vite que les noyaux de tous les atomes sont constitués par un assemblage de protons et de neutrons, qui doivent tenir ensemble par une force sans doute extrêmement puissante, qu'on appellera un peu plus tard la force nucléaire, parce qu'elle est très très puissante, beaucoup plus puissante que la force électromagnétique. Et voilà, mais d'autres personnes se mettent à faire des réactions nucléaires, et c'est là que entre en jeu Frédéric Joliot et Irène Curie. Irène Curie, en 1933, elle a 36 ans, lui il a un peu plus, il est né le en 1900, il a donc 33 ans. Et ils travaillent ensemble depuis quelques années, ils ont loupé un peu la découverte du neutron. Et puis là, ils envoient des particules sur de l'aluminium. Et puis ils détectent des neutrons. Ils publient ça, ils en parlent, il y a un congrès à Bruxelles en octobre 1933, où ils exposent ça, et ils rencontrent un grand scepticisme. Personne ne les croit. Personne ne les croit, pourquoi ? Ben parce que on avait déjà vu que ça pouvait émettre des protons. Mais des neutrons, si on fait le compte des protons et des neutrons, si on ajoute l'aluminium plus les deux neutrons et les deux protons de la particule alpha, eh bien, si on émettait un neutron, ça voudrait dire qu'on formerait du phosphore 30, 15 protons, 15 neutrons. Et ça, le phosphore 30 n'existe pas dans la nature. Jusqu'à présent, toutes les réactions nucléaires avaient produit des corps qui existaient dans la nature. Donc les physiciens, tous les physiciens qui sont la crème, c'est le Conseil Solvay, c'est la crème des physiciens d'Europe et du monde, très sceptiques. Donc Frédéric et Irène rentrent à la maison un peu ébranlés, enfin voilà. Et alors ils décident de faire une expérience juste pour mesurer quelque chose, c'est-à-dire à partir de quelle vitesse les particules alpha qui tombent sur l'aluminium, à partir de quelle vitesse elles produisent cette réaction. Alors on part d'une vitesse nulle, on met entre la source, c'est du source de polonium qui émet ces particules alpha, et puis on met du gaz, et puis donc quand il est à la pression atmosphérique, rien n'arrive, et puis on baisse la pression, et puis à un certain moment, la vitesse augmente, et puis à un certain moment, ça commence à se déclencher, il y a un compteur Geiger, qu'on appelle ici Geiger. C'est Hans Geiger qui a inventé, c'est un physicien allemand, qui a inventé en 1908 le premier compteur comme ça, et ensuite qui a été très perfectionné en 1928, et qui s'appelait Geiger-Müller. Et donc il a son compteur Geiger, comme on dit chez nous, qui se met à crépiter, donc il dit voilà, ça y est, on a atteint la bonne vitesse. Pour bien vérifier, il dit je vais redescendre la vitesse, de façon à arrêter, et puis recommencer, passer plusieurs fois par ça. Alors, il descend la vitesse, et à sa grande surprise, le compteur Geiger continue à crépiter. Tac, 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 tac. Alors là, Joliot, qui était de service, ça devait être le 11 janvier à peu près, 1934, il comprend qu'il y a un phénomène particulier. Et en fait, ce qu'il comprend, alors je passe les détails, il travaille avec Irène comme des fous pendant 3 jours pour publier, dès le lundi suivant, une note à l'Académie des sciences dans laquelle il montre que, en fait, ils ont formé bien du phosphore 30. Et la raison pour laquelle le phosphore 30 n'existe pas dans la nature, c'est que sa période radioactive, le temps au bout duquel il y a la moitié qui s'est désintégrée, c'est 3 minutes et quelques. Alors vous pensez bien qu'au bout de 3 minutes, il en reste la moitié, au bout de 6 minutes, le quart, le 8e, le 16e, au bout d'un jour, il ne reste plus rien. Donc, si c'est formé dans le passé du phosphore 30, c'est normal qu'il n'y en ait pas dans la nature. Donc pourquoi est-ce que les physiciens croyaient qu'il fallait absolument que ce soit une substance qui existe dans la nature ? Il n'y a pas de raison très forte, c'est comme ça. On pensait que c'était comme ça. Mais à partir du moment où on en a découvert un, et en fait ils en ont découvert 3 ou 4, tout le monde entier s'est lancé dans les réactions nucléaires pour faire des tas de radioéléments.
Donc ça, c'est 1934, découverte de la radioactivité artificielle.
On l'a appelé artificielle parce que le phosphore 30 était un élément produit artificiellement, si je veux dire, dans le laboratoire.
Donc, vous l'avez dit, il y a plusieurs équipes qui vont faire la même chose. Enrico Fermi à Rome va bombarder tous les éléments chimiques qu'ils peuvent acheter à la quincaillerie du coin. Ça, c'est vrai, avec des neutrons. Hein. Ils vont d'ailleurs faire de la fission sur de l'uranium sans s'en rendre compte. Mmh. Ils vont croire qu'ils ont fabriqué l'élément 93, le premier transuranien, alors qu'ils ont fait de la fission sans s'en apercevoir. Et alors, cette découverte de la fission officielle, quand est-ce que des physiciens, Jacques Trenner, comprennent que l'uranium-235 est un isotope particulier d'uranium et qu'il est le seul connu dans ce cas est capable de se couper en deux en libérant des grandes quantités d'énergie?
Alors ça, c'est en décembre 38 à Berlin, et c'est Hahn et Strassmann qui sont deux chimistes, en fait, qui avaient été enrôlés, en quelque sorte, dans cette aventure par une personne qui est l'absente du moment de la découverte, c'est Lise Meitner, qui est une grande figure de la physique allemande, qui est une espèce de Marie Curie allemande, qui a travaillé pendant 30 ans avec Otto Hahn, qui est physicienne, et qui, elle, comme à Paris, comme à Rome, comprend tout l'intérêt des neutrons comme sonde pour aller explorer les noyaux, mais qui a dû quitter Berlin en juillet 38, parce que elle est d'origine juive, autrichienne, et que après l'Anschluss, elle n'est plus protégée par ses nationalités autrichiennes. Donc il faut qu'elle s'en aille. Alors elle s'en va. Les autres continuent les manips à Berlin, mais elle correspond avec eux régulièrement, quasiment tous les jours, et y compris le 13 novembre 1938. Ils décident de se réunir à Copenhague, à l'Institut Niels Bohr, chez Niels Bohr, qui est là aussi, pour essayer de comprendre ce qui se passe quand on envoie un neutron sur un noyau d'uranium. Et donc là, ils aiment pas ce qui se passe à Paris, parce que ils disent que ce sont des mauvais chimistes, et Hahn, c'est un chimiste extraordinaire, enfin qui est extrêmement bon. Donc ils pensent qu'ils sont meilleurs chimistes, donc ils ont les meilleures méthodes pour identifier les produits des réactions nucléaires. Et donc ils décident de refaire une campagne de manip pour vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Et là, alors ce que disait Bernard tout à l'heure, c'est que les produits des réactions nucléaires sont en très petite quantité, et il y a un processus d'enrichissement en quelque sorte qui est de la chimie, c'est la radiochimie, une méthode que utilisait Curie, et en fait ils utilisent du barium pour qui est de la même famille que le radium, pour essayer de séparer du reste de la matière qu'ils examinent. Et en fait, ils se rendent compte que il y a rien d'autre que du barium. Donc ils ne parviennent pas. Ils pensent qu'il y a du radium qui produit. Ils n'arrivent pas à le mettre en évidence. Et donc la première signature est une signature chimique.
Donc si je comprends bien, on envoie des neutrons sur de l'uranium.
Sur de l'uranium.
On s'attend à trouver du radium dans la cible. On n'en voit pas.
On n'en voit pas.
À la place, on voit du barium qui est beaucoup plus léger.
Voilà. Qui est deux fois moins lourd, en gros. Ça,
on va donc lire la correspondance entre Lise Meitner et Otto Hahn de cette époque-là, qui montre leurs doutes, le fait qu'ils ont affaire à des phénomènes qu'ils ne comprennent pas, jusqu'à l'éclair de génie.
Ils s'échangent des lettres tous les jours, en fait.
Otto Hahn à Lise Meitner, le 19 décembre 1938, lundi soir au laboratoire. Au milieu de toutes les difficultés de l'Institut, je travaille, dans la mesure où je peux venir au laboratoire. Et Strassmann, infatigable, travaille sur l'uranium, soutenu par Lieber et Bonne. Il est presque 11h du soir. Vers minuit moins le quart, Strassmann va revenir et je pourrai retourner un peu à la maison. En fait, il se passe quelque chose de tellement étrange avec les isotopes du radium que nous ne le disons qu'à toi. On peut les séparer de tous les éléments, sauf du barium. Toutes les réactions donnent le même résultat. Sauf une seule, à moins d'un concours de circonstances très étranges, le fractionnement ne fonctionne pas. Nous arrivons toujours à la même terrible conclusion: nos isotopes du radium ne se comportent pas comme du radium, mais comme du barium. Comme je te l'ai dit, les autres éléments sont écartés. En accord avec Strassmann, je n'en parle qu'à toi, pour l'instant. Peut-être peux-tu proposer quelque explication fantastique. Nous savons nous-mêmes que l'uranium ne peut vraiment pas donner du barium en éclatant. Nous allons vérifier si les isotopes de l'actinium, issus de la désintégration du radium, se comportent non pas comme de l'actinium, mais comme du lanthane. Sujet très délicat. Mais nous devons éclaircir tout cela. Réfléchis de ton côté. Tu peux penser à une possibilité quelconque, éventuellement quelque chose comme un isotope du barium d'un poids atomique beaucoup plus élevé que 137? Si tu pouvais proposer quelque chose que tu pourrais publier, ce serait comme si on travaillait tous les trois. Nous ne croyons pas être ni devenus fous, ni frappés d'une quelconque infection. Lise Meitner à Hahn, le 21 décembre 1938. Vos résultats sont vraiment ahurissants. Une réaction qui est provoquée par des neutrons lents et qui devrait conduire au barium. Pour l'instant, l'hypothèse d'un éclatement d'une telle ampleur me paraît très difficile à admettre. Mais nous avons vécu tant de surprises en physique nucléaire que l'on ne peut pas dire d'emblée « c'est impossible ». D'ailleurs, Les transuraniens plus lourds sont-ils écartés?
Et alors, comment ça s'est passé, Jacques Trenet ou bien Bernard Fernandez, je ne sais pas lequel de deux veut parler. En fait, ce qui les intrigue, ils explorent toutes les hypothèses. C'est que un neutron lent qui a très peu d'énergie, qui vient taper un gros noyau comme celui d'uranium, qui contient 92 protons, peut donner comme produit de réaction le baryum, qui a des noyaux ne contenant que 56 protons. Et donc, qu'un neutron lent puisse casser un très gros objet leur semble impossible. Et c'est Lise Meitner qui va comprendre qu'il y a une fission. Alors, quel a été son mécanisme intellectuel, si tant est qu'on puisse le reconstituer?
En fait, on l'a dans le détail, parce que il est raconté par Frisch dans un petit livre de mémoire qui n'a pas été traduit en français non plus, qui s'appelle « What Little I Remember », et dans lequel il retrace un petit peu sa vie. Et il raconte le moment où ils ont compris ce qui se passait. Donc, il va, c'est le neveu de Lise Meitner, il va pour les vacances de Noël là où elle est, et puis ils sortent faire une promenade dans la neige, et en discutant des résultats de Hahn, que Frisch commence par mettre en doute, et Lise Meitner lui dit non, ce que trouve Hahn, c'est nécessairement bon, parce qu'il n'y a pas meilleur chimiste que lui. Donc ils réfléchissent sur la base du fait qu'effectivement, il y a du baryum dans l'affaire. Alors, ils réfléchissent et ils comprennent quelque chose qu'on peut comprendre aussi ici, c'est que, en fait, l'uranium, c'est le dernier noyau stable du tableau périodique des éléments. Il n'y en a pas de plus lourd. Les plus lourds, ils sont instables et ils se désintègrent, ils sont radioactifs. L'uranium l'est un petit peu aussi, mais avec une période de temps très longue. Imaginons, considérons-le comme stable. Mais s'il n'y en a pas qui soit plus lourd que celui-là, ça veut dire qu'on est à la limite de stabilité des édifices nucléaires. Et donc, ce qu'ils comprennent, c'est que quand on rajoute un petit peu d'énergie, eh bien, il y a la possibilité que, au lieu de fabriquer un noyau avec un nucléon de plus et qui émet qui fasse de la radioactivité bêta, en fait, le noyau formé, il est excité comme ça, comme une gouttelette d'un liquide normal, mais simplement, il est chargé électriquement, et il y a un moment où il explore une forme qui le casse en deux. Brutalement. Et donc là, vous avez deux noyaux de masse, en gros, moitié, qui sont au contact, et comme il y a des charges positives dans chacun d'eux, ils se repoussent extrêmement violemment, ils partent à des vitesses très très grandes, et les fragments cognent la matière environnante et transmettent leur énergie, et donc il y a un échauffement, finalement. Ce qu'on voit à l'échelle macroscopique, c'est un échauffement. Et donc, c'est ça qu'ils comprennent, le fait que le noyau lui-même peut être instable et qu'une de ses voies de relargage de l'énergie que lui a apporté le neutron, ça n'est pas d'émettre un alpha ou un bêta, mais de se casser en deux avec extrêmement beaucoup d'énergie relarguée. Et la question se pose tout de suite de savoir, et c'est normal de poser cette question, on ne va pas la discuter ici, mais c'est normal, qu'il y a ces deux fragments, mais il y a aussi des neutrons qui sont émis dans cette affaire-là, qui sont relargués. Et ça pose tout de suite, mais tout de suite, immédiatement, la question de la réaction en chaîne. Parce que si, en absorbant un neutron, vous produisez énormément d'énergie en cassant un noyau d'uranium, et en libérant des neutrons, ces autres neutrons peuvent, à leur tour, faire d'autres réactions de fission comme ça, et si pour un neutron absorbé, il y a au moins un neutron qui est produit, en fait il y en a entre 2 et 3, ça dépend des cas, en moyenne c'est 2,5, peut-être il y a là la possibilité d'une réaction en chaîne, mais il lui fallait encore le bon noyau qui se fissionne et qui produise plus de neutrons.
Alors, Jacques Trenet a lâché le mot important dans cette affaire, quand on pense à la bombe atomique, Bernard Fernandez, c'est réaction en chaîne. Alors, des neutrons sont émis en même temps que la fission se produit. Ces neutrons peuvent taper contre d'autres noyaux d'uranium-235 qui vont faire fissionner. Et là, on voit que ça produit une réaction en chaîne comme un craquement d'allumettes, sauf que les énergies sont beaucoup plus importantes.
Voilà, c'est-à-dire que la réaction en chaîne, à vrai dire, c'est quelque chose qu'on connaît en chimie. N'importe quelle petite explosion, ou même si vous laissez fuir du gaz dans votre cuisine et que vous mettez une allumette, ça va exploser. C'est une réaction en chaîne. La réaction en chaîne, c'est simplement que quand le gaz et l'oxygène vont brûler, ils vont émettre de l'énergie qui vont chauffer de proche en proche et tellement vite que ça va faire une explosion, une production de chaleur très grande et très rapide. Donc la réaction en chaîne, c'est ça. Alors pour ce qui concerne la fission, les gens pensent tout de suite qu'il doit y avoir des neutrons en supplément pour une raison, c'est que quand on regarde le tableau périodique des éléments, quand on regarde les protons et les neutrons, au début, il y a autant de protons que de neutrons. Et puis, au fur et à mesure qu'on va vers les aimants plus lourds, il y a de plus en plus de neutrons. Il y a plus de neutrons que de protons. L'uranium, par exemple, mettons le 238, il y a 92 protons, il y a 146 neutrons. Et alors, si on le casse en deux, on va avoir deux noyaux qui sont à peu près la moitié, mais du coup, on a des neutrons en trop, donc il y en a sûrement qui se perdent dans la nature. Et alors, ça intéresse immédiatement beaucoup de gens. En Allemagne, il y a quelqu'un comme Flügge, un théoricien, et puis en France, Frédéric Joliot, qui se lance immédiatement dans l'étude de ça, dans l'idée de faire un réacteur nucléaire, une machine pour produire de l'électricité. Mais pour ça, il faut d'abord mesurer, savoir combien il y a de neutrons produits. Et ça, c'est quand même une entreprise assez compliquée. Alors, Joliot se lance dans des mesures, et puis finalement, il trouve qu'il y a plus de deux neutrons, au moins 2,5 ou un peu plus. Et alors ça se répand un peu partout. Et puis aux États-Unis, il y a Szilard qui, lui, est mortellement inquiet, parce que si...
Alors justement, on va lire, Léon Bonafé va lire le texte de Szilard, puisque lui a fait cette expérience le 3 mars 39. Et ce qui est intéressant, c'est d'entendre la conclusion qu'il a tirée du fait qu'il y a bien production de plusieurs neutrons.
Je me présentais à l'Université Columbia avec ce radium et ce bloc de beryllium. Et après en avoir parlé avec Zinn, je dis au chef de département « J'aimerais avoir l'autorisation de faire quelques expériences. » Je reçus la permission d'en faire pendant 3 mois. Je ne sais pas l'origine de cette précaution, étant donné qu'il me connaissait bien, mais l'idée était peut-être un peu trop fantastique pour être tout à fait respectable. Et dès lors que nous avions le radium et le beryllium, ce fut l'affaire d'une après-midi pour voir les neutrons. Le 3 mars 1939, tout était prêt et tout ce que nous avions à faire était d'actionner un interrupteur, de nous asseoir et de regarder un écran de télévision. Si des éclairs lumineux apparaissaient sur l'écran, cela signifierait que la libération à grande échelle des neutrons était toute proche. Nous actionnâmes l'interrupteur et nous vîmes les éclairs lumineux. Nous les regardâmes pendant un moment, puis nous éteignîmes les appareils et rentrâmes chez nous. Cette nuit-là, je ne doutais plus que le monde se dirigeait vers un malheur.
Donc c'est après cette expérience que Léo Szilard contacte Einstein, lui explique ce qu'est une réaction en chaîne, le convainc de signer la lettre. La lettre est lue à voix haute, parce qu'il a insisté, par Alexandre Sachs, le 2 octobre 1939, dans le bureau de la Maison Blanche. Sa lecture achevée, le président Roosevelt aurait dit à Sachs: « Alex, si je vous comprends bien, vous cherchez à faire en sorte que les nazis ne nous fassent pas exploser. » Exactement, approuva Sachs. Roosevelt appela aussitôt l'un de ses conseillers et lui dit d'un ton ferme: « Cela exige de l'action. » Qu'est-ce qui s'est passé, Jacques Trenner, ensuite?
En fait, immédiatement, il ne s'est pas passé grand-chose. C'est-à-dire, ils ont récupéré quelques milliers de dollars parce que Fermi travaillait à Columbia avec Szilard et d'autres, et ils avaient besoin de graphite très pur pour ralentir les neutrons. Et donc, ils ont eu ces quelques milliers de dollars, mais il n'y a pas eu d'effet plus que ça. C'est-à-dire, ils ont eu de l'argent pour continuer à faire des manips,
ils ont créé une commission,
explorer, ils ont créé une commission, mais il n'y a pas eu grand-chose. En fait, il y a deux... Ça a vraiment démarré au printemps 1942, et là, on est en 1939. Et en 1942, il y a deux événements qui avaient changé considérablement la donne. L'un d'origine politique et l'autre d'origine scientifique. Le premier élément, c'est que c'est décembre 41, Pearl Harbor, qui fait basculer complètement l'attitude des dirigeants américains et de la population américaine vis-à-vis de la guerre qui s'est déroulée en Europe. Jusque-là, les gens étaient plutôt non-interventionnistes, disant « cette guerre ne nous concerne pas, les nazis vont se débarrasser des soviets, ils vont régler leurs trucs entre eux, etc. Restons, il est urgent de rester en dehors de ça ». Et puis, à partir du moment où ils sont attaqués directement, c'est plus possible, donc ils entrent en guerre. Et la deuxième raison concernant le projet Manhattan et la fabrication de la bombe, c'est deux réfugiés en Angleterre, Pyers et Frisch, toujours le même d'ailleurs, qui ont quitté l'Allemagne et qui ne peuvent pas travailler, qui n'ont pas l'autorisation, parce qu'ils sont d'origine allemande, ils n'ont pas l'autorisation de travailler sur les sujets chauds concernant la guerre. Et c'est les radars. Donc, ils ne peuvent pas travailler là-dessus. Donc, on les laisse travailler à la fac. Donc, ils se disent, bon, on va continuer à travailler sur la fission. Donc, ils se posent la question, quelle est la masse critique d'uranium 235 qu'il faut pour déclencher la réaction en chaîne. Et à leur surprise, ils se rendent compte que c'est pas des tonnes, mais que c'est des kilos. Et à partir du moment où c'est des kilos, ça va être réalisable. Et donc, quand ils se rendent compte de ça, ça les terrorise, absolument. Donc, ils préviennent les autorités universitaires, qui décident tout de suite d'envoyer une mission aux États-Unis. Marc Oliphant, qui dirige le labo, donc, y va. Il fait la tournée des popotes et leur dit, écoutez, voilà où on en est. Voilà, cette chose-là est possible. Si elle est possible, c'est-à-dire que les Allemands sont déjà en train d'y travailler. Et donc, il faut y aller. On peut pas. C'est extrêmement dangereux, etc. Bon, entre temps, les gens se sont convaincus, ont compris mieux ce que c'était. Bon, et donc là, véritablement, le projet Manhattan est lancé avec un directeur scientifique, qui est Robert Oppenheimer, et un directeur militaire, un vrai militaire, mais qui est astucieux, c'est-à-dire qui comprend ce dont ont besoin les scientifiques pour bien travailler.
D'où vient le
C'est-à-dire qu'en gros, il faut leur fiche la paix, un peu. Voilà. Mmh. Donc les trucs ultra sécuritaires, c'est pas bien. Il faut qu'ils puissent discuter entre eux, échanger des idées, etc. Et donc ils décident donc il y a une première réunion à Berkeley en juillet 1942, et là ils décident de faire ce labo qui existe toujours maintenant, mais qui sort de rien, du désert du Nouveau-Mexique, à Los Alamos, et qui est maintenant un énorme laboratoire.
Est-ce qu'Einstein est associé à tout cela, ou est-ce que ça se fait sans qu'il soit informé ni consulté?
Non, il est pas. Il est en dehors de tout ça. D'ailleurs, les autorités américaines n'ont pas confiance en lui. Il est surveillé par le FBI parce que, en fait, sa réputation, c'est d'être un pacifiste convaincu et qui s'est exprimé. Pendant la guerre de 14, 93 des grandes personnalités scientifiques allemandes écrivent un texte dans lequel ils, à la face du monde, pour dire, voilà, c'est la civilisation, nous défendons la civilisation.
Einstein refuse de signer.
Einstein refuse de signer.
Mais il cesse d'être pacifiste en 1933, quand Hitler prend le pouvoir.
Voilà, alors là, en fait, après la guerre, il va dire, et dans ses mémoires, que la plus grande erreur qu'il ait faite, c'est d'avoir signé cette lettre. Mais, dit-il, c'était les nazis qui étaient là, et donc on peut comprendre que, c'était un danger de vie ou
de
mort.
La réaction de l'Allemagne, il a demandé à ce que le projet soit arrêté.
Oui. Alors, alors ça, c'est absolument extraordinaire aussi. C'est-à-dire que, bien avant, le projet de bombe, donc il est fait contre les Allemands. Et puis, on se rend compte, après Stalingrad et tout ça, que les Allemands vont perdre la guerre, et ils perdent la guerre. Bon. Et, donc en mai 45, les Allemands se sont rendus, c'est fini. Bon, et la bombe, elle va être jetée après, elle va être larguée après, et sur les Japonais, pas sur les Allemands. Et donc, quand les physiciens impliqués dans le projet Manhattan se rendent compte que voilà, les Allemands sont vaincus, ils disent donc on arrête. Il faut arrêter. Et donc Szilard, encore lui, se remet à faire circuler une pétition qui est signée par plusieurs dizaines de directeurs des équipes qui travaillent sur le projet de bombe en disant, d'une part, il faut arrêter, et si on va jusqu'au bout, eh bien, il faut pas la larguer. Il faut prévenir les Japonais, leur dire, voilà ce qu'on a, etc., mais il faut pas la larguer. Et donc, il va jusqu'au bout, c'est-à-dire, il essaye de reprendre le cheminement pour atteindre Roosevelt, donc il recontacte Einstein, qui recontacte la femme de Roosevelt, et au moment où ils ont quasiment le rendez-vous, Roosevelt meurt. Bon, voilà. Et donc, après, c'est Truman. Et Truman dit, la bombe a coûté 2 milliards de dollars, il y a 100 000 personnes qui ont travaillé là-dessus, il faut montrer au public américain à quoi servent ces impôts. Et puis, en même temps,
sérieusement,
il faut montrer aux Russes aussi à quoi servent les impôts américains. Et aux Japonais aussi. Et les Japonais se rendent parce que les Russes entre en guerre contre les Japonais, et les Japonais préfèrent se rendre aux Américains qu'aux Russes. Donc la guerre...
Le 6 août 45, Einstein apprend par la radio le largage de Little Boy sur Hiroshima. Hélène Ducasse, son assistante, l'entend dire « Oveis », qui veut dire « pauvre de moi ».
Il
était abasourdi, d'autant plus qu'il avait visité Hiroshima en 1921 lors de sa tournée de conférence au Japon, où il avait été fort bien accueilli. Il n'a pas réagi sur le moment, il a laissé Hélène Ducasse répondre à une interview du New York Times, dans laquelle elle dit ceci: « S'il est exact de dire que le professeur Einstein comprend parfaitement les fondements scientifiques de la bombe atomique, il se refuse à tout commentaire sur ce sujet, jusqu'à ce que les autorités fournissent des détails. » Donc il doutait peut-être encore qu'il s'agisse vraiment d'une bombe atomique, non?
Au moment où la bombe est larguée, les physiciens allemands qui travaillaient sur le projet de bombe et qui avaient été réunis pendant quelques mois au secret à Farm Hall en Angleterre, dont Heisenberg, un des fondateurs de la mécanique quantique, quand ils entendent à la radio que la bombe est larguée, ne croient pas que c'est une bombe atomique.
C'est l'objet de la pièce que vous avez écrite avec votre fils, Jacques Trenner,
voilà, oui,
pièce qui s'appelle Fission. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi d'entendre Robert Oppenheimer, qui lui a été très actif, il a été même le chef de projet scientifique de la bombe atomique, qui a donné une interview au Nouvel Observateur en 1965, dans laquelle il dit ceci, « C'est le suprême paradoxe de la bombe atomique. Elle fut l'aboutissement ultime, mais indirect, de l'acte épistolaire d'un homme doux. » Il parlait d'Einstein. Et il dit ceci, « si je devais définir d'un mot l'attitude d'Einstein à l'égard des problèmes humains, je choisirais le mot sanskrit « ahimsa » qui signifie « ne pas faire de mal ».
France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein.
Alors Bernard Fernandez, quelle a été, à votre avis, si on essaie de faire un bilan, la responsabilité d'Einstein dans toute cette affaire ?
C'est difficile de dire la responsabilité d'Einstein.
Qu'auriez-vous fait à sa place, par exemple ?
Non, mais c'est certain que en 1939, on avait de quoi être inquiet. L'Allemagne était le plus grand pays scientifique du monde. C'est en Allemagne qu'avait été découverte la fission. Et donc, s'il y avait un pays qui pouvait faire la bombe, avant tout le monde, c'était l'Allemagne. Et donc, l'inquiétude de Szilard et Teller et Wegener, qui étaient des réfugiés hongrois aux États-Unis, mais pas seulement eux, il faut bien dire que le projet dit Manhattan, qui a été installé à Los Alamos pour faire la bombe, il y a beaucoup de physiciens européens, et en particulier beaucoup de physiciens juifs expulsés d'Allemagne par Hitler, qui ont participé parce qu'ils étaient morts de peur que Hitler obtienne cette bombe avant les États-Unis, et à ce qui lui aurait donné évidemment un avantage absolument considérable. Donc c'est difficile de se mettre dans la peau, et puis dans l'ambiance, et puis dans... il faut voir tout le contexte de l'époque, mais Einstein là-dedans a joué un rôle quand même assez mineur, quoi. C'est-à-dire que Szilard, qui le connaissait bien, il se connaissait depuis Berlin. Szilard avait été prof à Berlin. Ils avaient même fait un brevet ensemble. Szilard l'a convaincu, lui a dit "Écoute, il faut absolument faire quelque chose." Et puis Szilard parce que avant de voir Einstein, Szilard avait essayé de remuer ciel et terre. Il avait trouvé porte close partout. L'armée, ça n'intéressait pas du tout l'armée, cette histoire de... C'était des histoires complètement farfelues. Bon, et donc on peut comprendre que Einstein ait signé cette lettre. Mais ce qu'on peut voir aussi, c'est que le fait de faire la bombe, c'est une chose. Le fait de la larguer, c'est quand même autre chose. Et la position traditionnelle, disons, présentée par les gouvernements américains, c'est de dire ça a sauvé des vies, parce que si on n'avait pas largué la bombe, eh bien, bon, c'est vrai, on a tué 100 ou 200 000 personnes, bon, ou 300 000, mais sinon, le débarquement au Japon aurait coûté beaucoup plus cher en vie américaine. Et donc, voilà, c'est pour ça. Alors, en fait, je voudrais juste lire deux lignes du rapport Frisch-Peierls qui a été remis aux Anglais puis aux Américains. Alors, ils expliquent très bien que c'est une bombe très dangereuse et tout ça. Et à un moment, ils disent « La bombe ne pourrait pas être utilisée sans tuer un grand nombre de civils, ce qui la rend inappropriée pour un pays comme le nôtre de l'utiliser. » Et alors, d'autre part, il semble bien quand même que, comme Jacques vient de le dire, la décision des Japonais de se rendre était déjà prise depuis le mois de juin. Ils essayaient de négocier un peu si c'était sans condition ou avec quelques aménagements. Mais surtout, l'URSS, qui était neutre jusqu'à cette époque-là, est entrée en guerre et a envahi la Mandchourie en faisant qu'une bouchée de l'armée japonaise, qui avait quand même 1 million d'hommes en Mandchourie. Et donc, comme tu as très bien dit, les Japonais ont décidé qu'il valait beaucoup mieux se rendre aux Américains qu'aux Russes. Et d'autant plus que, il faut bien voir, Hiroshima, ça nous frappe parce qu'il y a eu beaucoup de morts, mais le bombardement anglo-canadien à Dresde, il y a eu 125 000 morts, c'est plus qu'à Hiroshima. C'était que des bombes classiques incendiaires, on a simplement tué les gens, les brûlant avec des bombes au phosphore. Hein. Et puis, la plupart des grandes villes japonaises avaient été déjà bombardées classiquement, et avec des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Simplement, il semble que les autorités militaires japonaises considéraient ça, que c'était bon, d'accord, ça faisait souffrir des gens, mais la capacité militaire des Japonais n'était pas tellement atteinte. D'ailleurs, à Hiroshima non plus, c'était que des civils qu'on a tués à Hiroshima. Donc, voilà, il y a eu une polémique. Moi, je ne suis pas qualifié pour trancher, mais c'est sûr que la décision de larguer la bombe était... Certains disent que c'est le premier acte de la guerre froide, il fallait impressionner Staline.
En tout cas, le regard d'Einstein s'est attristé à ce moment-là,
de certainement
façon durable. Mais il s'est expliqué en novembre 45. Il a dit ceci: « Je ne me considère pas moi-même comme le père de la libération de l'énergie atomique. Mon rôle en la matière a été tout à fait indirect. En fait, je n'ai pas prévu qu'elle serait libérée de mon vivant. Ce n'est devenu possible qu'à la suite de la découverte accidentelle de la réaction en chaîne, et ce n'est pas quelque chose que j'aurais pu prévoir. »
Ah, est-ce ça, que c'est vrai.
Alors, ensuite, il s'est engagé évidemment contre l'armement atomique, le mouvement Pougouache. C'est quelle année ça?
La déclaration, c'est 52, non?
Quelque chose comme 55 ça même, je
55
crois.
Oui. C'est juste avant sa mort, il a cité.
Ah oui, oui,
c'était un manifeste qui a été rédigé par Bertrand Russell avec Frédéric
c'est
Joliot.
C'est le dernier papier qu'il a signé.
C'était un papier, oui, voilà. C'est le dernier papier qu'il a signé.
Et il est mort tout de suite après.
Donc, on n'a pas pu le changer parce qu'il était en cours de négociation, ce papier. Et comme il est mort, Russell a dit, bon, Einstein l'a signé, on ne va pas se priver de sa signature.
Mais l'histoire ne manque pas d'ironie, parce que le 1er novembre 1952, les Américains font exploser dans un atoll la première bombe à hydrogène, qu'ils avaient appelée Mike, je crois. Et les déchets produits par cette explosion ont été analysés au laboratoire de Berkeley. Et l'analyse a montré que son explosion avait conduit à une succession de réactions nucléaires qui avaient conduit à la formation de deux nouveaux éléments chimiques très radioactif. Le premier, de numéro atomique 100, fut appelé le fermium, en hommage à Fermi, et le second, de numéro atomique 99, qui a l'allure d'un métal blanc argenté, fut baptisé l'einsteinium. Donc une réaction nucléaire, une bombe atomique, a produit un nouvel élément chimique qui a été baptisé einsteinium, et les scientifiques ou militaires américains, je ne sais pas de qui il s'agit, ont attendu sa mort pour annoncer ce baptême. Ça vous laisse de marbre.
On l'a peut-être produit autrement aussi, l'einsteinium. Hein,
oui, mais là, on l'a identifié, on l'a caractérisé.
Non, alors,
je compte sur votre sens de l'improvisation.
Non, oui, bien sûr. Non, mais
la bombe allemande, Jacques Trenner.
Oui, non, ouais. Alors,
on va en parler.
Il y a découvrir et inventer. Voilà, on découvre la fission et on invente la bombe, et c'est pas la même chose. La découverte, c'est la découverte d'un phénomène qui est déjà là. Voilà, et puis on essaye de le comprendre, et ça, c'est un mouvement irrépressible de la pensée humaine. Ça définit l'espèce humaine. C'est la curiosité, le désir irrépressible de comprendre les choses. Et puis voilà. Alors ensuite, inventer, c'est autre chose. On invente. Il y a un cahier des charges d'une invention. On veut réaliser quelque chose. On veut faire quelque chose.
En l'occurrence, est-ce que vous n'êtes pas impressionné par le fait que la durée qui sépare la découverte de la fission, fin 38. Et la première explosion d'une bombe atomique en juillet 45, c'est extrêmement court.
Oui, c'est extrêmement
Est-ce
court.
Est-ce qu'on comprend ça? Il y a eu des efforts extraordinaires.
Oui.
Un personnel très nombreux. Et 100 000 personnes.
Oui, et puis à Los Alamos, c'est les meilleurs qui ont quitté l'Allemagne et qui se retrouvent là. Les meilleurs ingénieurs, les meilleurs physiciens, chimistes, etc., qui sont rassemblés là, et on leur donne tous les moyens qu'il faut pour travailler. Il n'y a jamais eu une telle concentration. C'est le début de la big science, ce qu'on a appelé après la big science.
Mais si Hitler n'avait pas jeté hors du pays la moitié de ses meilleurs physiciens, il faut voir que les physiciens qui ont fui l'Allemagne, il y avait 30 prix Nobel parmi eux, qu'il avait déjà ou qu'il aurait dans les années suivantes. Oui. S'il n'avait pas jeté dehors la crème de ses physiciens, et s'il n'avait pas fait...
Il aurait fallu qu'il soit nazi aussi.
S'il n'avait pas terrorisé la Terre entière, tous ces gens-là n'auraient pas collaboré. C'était une occasion absolument unique dans l'histoire
que tous les meilleurs physiciens de, pratiquement du monde entier viennent
mais en 1945, après la fin de la guerre, Jacques Trenner, qu'est-ce qu'on peut dire de ce qu'était le projet allemand de bombe à uranium?
Alors ça, on le sait dans le détail, ils étaient très loin. En fait, on a toujours dans l'idée, la rigueur allemande de l'organisation, la capacité d'organiser les choses et de faire que ça marche bien, et tout, etc. Et en fait, c'était pas du tout la bonne organisation. C'était complètement décentralisé dans différents centres qui serraient dans les pattes pour les crédits, pour avoir les bons étudiants, etc. Et donc, ça a été très malmené. Et Heisenberg est un grand physicien, un des meilleurs du siècle, mais il n'était pas du tout adapté à faire ça, qui s'apparente à un projet industriel. Une fois qu'on a compris la physique de la chose, c'est un projet industriel, et il n'avait pas les qualités d'un Fermi, par exemple, qui était capable de passer des choses les plus abstraites et les plus théoriques aux manipes les plus concrètes dans lesquelles il faut faire marcher quelque chose. Et voilà. Et donc, ils ont mal travaillé. Voilà. Ils ont mal travaillé du point de vue de l'organisation, ils ont mal travaillé du point de vue scientifique parce qu'ils étaient sur les mauvaises pistes, ils n'avaient même pas calculé la masse critique. Et tout ça, on l'apprend dans les conversations, quand ils sont à Farm Hall. Les principaux responsables du projet de bombe allemande se retrouvent à Farm Hall pendant 6 mois, tenus au secret, et ils sont dans un manoir qui appartient à l'Intelligence Service et qui a truffé les différentes chambres, et notamment les chambres communes, de micros. Et donc, leurs conversations sont enregistrées, transmises, traduites, et puis transmises au général Groves, qui dirige le projet Manhattan, et on les a, ces conversations, parce qu'elles ont été transcrites. Pendant 30 ans, ça n'a pas été publié. Puis dans les années 90, ça a été publié. Et en fait, nous, c'est la petite histoire, mais on s'est basé sur ces retranscriptions de ce qui se passe dans la tête de ces responsables quand ils s'aperçoivent que non seulement ils sont vaincus comme Allemands, mais ils sont vaincus comme scientifiques parce qu'ils ont raté là où les autres ont réussi.
Ils se sont humiliés.
Ils se sentent humiliés, mais comme c'est incroyable. Donc ils se sentent humiliés d'avoir raté alors que les autres ont réussi. Et puis, il trouve une façon de se récupérer une moralité, parce que il y a Weizsäcker, donc on en a parlé plusieurs fois, qui est le type astucieux, qui est d'une grande famille de diplomates allemands, et qui se rend compte que finalement, ça peut être considéré comme une chance de ne pas l'avoir faite, parce que ils pourront se prévaloir d'avoir été avec le diable, mais ils lui ont pas donné l'arme qui aurait pu le faire gagner, alors que les autres étaient du côté du bien, mais ils ont construit cette arme terrible et ils l'ont larguée sur des civils. Et en fait, c'est ça l'histoire qu'ils vont se reconstruire et qui va les aider à vivre après la guerre, quoi. Se reconstituer une position morale alors qu'ils ont été du côté des nazis. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont mal travaillé.
Enfin, ils n'ont pas cherché à faire la bombe quand même. Ils ont cherché à faire un réacteur et puis ça n'a pas marché, quoi.
Oui, mais le réacteur, c'est parce qu'ils étaient sur une autre piste. Ils ne pensaient pas qu'il serait possible de séparer l'URM-235. Donc, ils étaient pour faire un réacteur.
Oui,
et c'est Outermans qui les avait...
Je sens qu'on va partir sur un débat technique. Or, c'est la fin de l'émission. Je vous remercie, messieurs, grâce à vous. Nous savons un peu mieux comment les physiciens ont su qu'il est possible de faire des bombes atomiques. Je vous donne rendez-vous le 10 décembre à la même heure pour une autre émission au Théâtre de l'Odéon. La question sera « Qu'est-ce que le vivant ?» Et je recevrai Jean-Pierre Bibring et Pierre-Henri Gouillon. C'était La Conversation Scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer, à la technique Benjamin Thuot et Gérard Cognet, et à la réalisation François Connac. Instant, pour ne pas dire tout de suite, vous retrouverez Antoine Guillot pour Plan Large, le nouveau rendez-vous cinéma de France Culture.